Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
Oui, c'est Human. Bonjour à tous avec un nouvel épisode aujourd'hui autour de la solidarité internationale dans les régions. Alors ce sera la région Auvergne-Rhône-Alpes que nous prendrons comme exemple autour de la belle ville de Lyon. Mais c'est un sujet qui va concerner toutes les régions, aussi bien françaises ou francophones que celles de la communauté internationale ailleurs. Puisque si les États ont des rapports entre eux, si les organisations non gouvernementales ont des rapports entre elles et avec les États et avec l'ensemble des organisations internationales, eh bien les collectivités locales, les villes, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, et les régions ont aussi une vie internationale qui ne se cantonne pas exclusivement dans les questions, par exemple, de parrainage entre les différentes villes. Autour de cette table, aujourd'hui, eh bien, Rosemarie Di Donato, directrice de Resacop, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Rosemarie Di Donato. Vous dirigez Resacop, qui est un réseau autour de la coopération. Qu'est-ce que c'est Resacop ?
Resacop, déjà, ça veut dire le réseau Auvergne-Rhône-Alpes de la coopération internationale. Et justement, Resacop est né à partir de la naissance de ce qu'on a appelé la coopération des collectivités territoriales. Les choses ont changé depuis, mais c'était ça la base de Resacop. Et Resacop, aujourd'hui, c'est un groupement d'intérêt public qui réunit 28 organisations de statuts très variés qui rend compte de la diversité de ce que sont les acteurs, les organisations qui agissent dans le champ de la coopération et de la solidarité internationale. L'État, les collectivités territoriales, depuis la région jusqu'aux plus petites communes, les ONG, l'université, les hôpitaux, etc.
Et alors, vous êtes une sorte de chef d'orchestre, on va revenir dans le détail, mais vous mettez en relation, en scène, ces différents acteurs dans des projets spécifiques. Comment ça se passe ?
On est plutôt à l'écoute. C'est vrai que le terme de chef d'orchestre est bien posé. C'est la manière d'ailleurs dont mon président décrit Resacop. La mission de base de Resacop, c'est vraiment de mettre en synergie tout ce qui se fait autour de l'international dans la région, en particulier l'international des continents asiatiques, africains et latino-américains. Et notre rôle est plutôt d'accompagner, de mettre en lumière et de faire travailler ensemble ces organisations de nature très variée qui s'intéressent depuis parfois très longtemps aux questions de coopération internationale.
Voilà, on aura l'occasion de revenir sur des sujets concrets et sur des projets concrets, mais il nous appartient d'abord de présenter nos autres invités. Et j'ai sur ma droite, Benoît Miribel. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Voilà, vous êtes quoi ? Vous avez tellement de titres qu'on ne sait pas par quoi commencer. Vous avez été longtemps Institut Mérieux.
Depuis le mois d'avril.
Depuis le mois d'avril.
J'ai été longtemps Fondation Mérieux.
Fondation Mérieux. Voilà. Pendant 12 ans, vous avez été responsable Fondation Mérieux, qui est une fondation donc financée par une famille et par un homme.
Oui, au départ, tout à fait, qui marque 50 ans d'action à l'international, principalement.
Oui.
Ce qui est rare, parce que beaucoup de fondations françaises et européennes sont sur le territoire, ce qui est nécessaire, mais cette fondation est aussi principalement à l'international dans les maladies infectieuses. Et la solidarité, la Fondation Mérieux a permis dans le passé de la création de Bioforce, centre de formation reconnu, de Bioport, un plateau logistique humanitaire, et elle accueille dans son centre de conférence aussi à Annecy, puisqu'on parle de région, au bord du lac d'Annecy, le forum Espace Humanitaire, qui tous les 18 mois rassemble les dirigeants des grandes ONG humanitaires pour une discussion, une sorte de retraite sur des thématiques importantes. Elle a aussi encouragé, cette fondation, la création de la revue Alternative Humanitaire, qui est née donc à Lyon, avec la Fondation Handicap International, Fondation Mérieux, Fondation Croix-Rouge, et qui aujourd'hui est soutenue par une dizaine de fondations.
Donc vous êtes un chef d'entreprise spécialisée dans l'humanitaire, et vous venez plutôt, j'allais dire, de l'ENA ou d'une école de commerce, ou plutôt de l'humanitaire, vous, dans votre parcours personnel?
Moi, je viens de l'Isère.
Oui.
Donc, de la région, donc, ni l'ENA, ni l'humanitaire, parce que j'ai commencé, pendant mes études à l'IEP Lyon, j'ai été placé à l'aéroport de Lyon. J'ai pris un jour
Sciences Po Lyon, oui.
Voilà, j'ai pris un jour un congé sans solde, c'est vieux, l'année 91. Après oui. 3 ou 4 ans de chambre de commerce à l'aéroport, on avait le droit de pouvoir faire valoir un congé sans solde.
Oui.
Et j'ai découvert sur le terrain, toute l'année 91, l'action des ONG. Enfin, j'étais avec Action contre la faim au Liberia, après en Irak et en Éthiopie. Et puis après, je suis resté connecté à ça. Donc voilà, je ne suis pas venu d'humanitaire en tant que tel directement, mais c'est... C'est par un congé sans solde que j'ai voulu m'impliquer. Et effectivement, parmi tous les acteurs de Rhône-Alpes, il y a bien sûr des ONG, des fondations et cette richesse dont on va parler pendant cette émission.
Voilà, c'est vrai que le monde de l'humanitaire et de la solidarité est très, très riche et très varié. Plus on le creuse, plus on découvre de nouveaux acteurs. Eh bien, le troisième acteur qui est autour de cette table, c'est Pierre Vial. Pierre Vial, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes président de la Maison de la Solidarité Internationale à Lyon, c'est bien ça ?
Alors, de la Maison des Solidarités.
De la Maison des Solidarités.
Locale et internationale.
D'accord. Alors, cette Maison des Solidarités locale et internationale, que fait-elle ? Quel est son rôle ?
Ben, justement, le projet associatif de cette maison, c'est de montrer l'importance qu'il y a de conjuguer la solidarité locale et la solidarité internationale. Il y a une solidarité, qui est un concept que tout le monde connaît à peu près, sauf que c'est un concept qui ne vaut que si on pose des actes. Et ces actes sont souvent posés soit localement, avec une population en général fragile, ou en tout cas qui a besoin d'aide, ou à l'international, plus sur du développement, ou sur, bien entendu, des populations qui en ont besoin. Et l'important, c'était de montrer à nos concitoyens que l'un se complète de l'autre, et que l'un va avec l'autre, et de montrer à nos concitoyens eh bien que justement tout ce tissu lyonnais s'est engagé dans la solidarité.
Voilà, le rapport entre le local et l'international. Et donc, on a eu à Lyon il y a quelques mois une journée de la solidarité internationale qui, vous allez nous en parler, qui se situait dans un contexte un peu plus large. Vous allez nous l'expliquer après. Mais nous y étions et nous avons fait une sorte de radio-trottoir. Nous avons interviewé des gens, des citoyens qui étaient présents à la mairie de Lyon. Et puis vous réagirez en fonction de ce qu'ils vont nous dire. Écoutez.
Alors bonjour. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui avec nous ?
Alors parce que moi j'ai fait des missions humanitaires avec Médecins Sans Frontières et je travaille au service RH d'une association à Lyon. Donc je voulais découvrir un petit peu aussi nos partenaires et pourquoi pas trouver une idée d'engagement bénévole.
Moi pareil, je continue à faire des missions humanitaires pour Médecins Sans Frontières. Je connais bien ce qui se passe au niveau international. En fait, donc Solidarité Internationale, je la connais. C'était plutôt découvrir ce qui se passe dans ce domaine à Lyon.
Je m'attendais à voir s'il y avait effectivement un milieu ou une association qui me donnait envie de m'investir, peut-être sur du moyen-long terme, plutôt ponctuellement, mais... Voilà, donc je voulais voir s'il y avait des associations qui m'intéressaient.
Est-ce qu'il y a des pôles qui vous ont interpellé plus que d'autres ou est-ce qu'il y en a qui vous parlaient déjà suffisamment ?
Bubble Art, bien sûr. Non, pas particulièrement. Je me suis inspiré, ou du moins j'ai essayé de découvrir un petit peu ce que tout le monde faisait sans forcément rentrer vraiment dans le vif du sujet de l'association, mais non. Globalement, non, pas l'association en particulier.
J'ai bien aimé ce que fait le Tissu Solidaire, par exemple, où on peut venir assister le lundi à des ateliers couture. Si on a un ourlet à faire, on vient et c'est l'occasion de rencontrer des demandeurs d'asile qui, eux, savent coudre. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. J'irai sûrement voir.
Là, en regardant rapidement, j'ai vu l'ONU pour Haïti et je regardais s'il y avait des choses aussi un peu plus pour les animaux. J'ai vu la biologie qui avait l'air intéressante.
Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a des jeux les marelles au sol, etc. C'est très ludique, c'est participatif. Alors, et la possibilité d'échanger aussi avec des personnes qui travaillent ou des bénévoles ou des volontaires de services civiques.
Je trouve intéressant de voir qu'il y a une intergénération dans les stands. On trouve à la fois beaucoup de jeunes et des moins jeunes, et puis comme moi qui a 75 ans, mais si vous voulez, je trouve ça c'est très positif, l'harmonie entre les diverses générations. Par contre, ce que je trouve toujours un peu dommage, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'assos. C'est bon signe d'une certaine mesure, mais est-ce qu'on est bien sûr que chacun a réellement son créneau et que des fois, il n'y aurait pas plutôt la possibilité de réunir plusieurs assos qui, à ce moment-là, multiplieraient leurs moyens, qui auraient des subventions plus importantes probablement et qui, peut-être, seraient plus efficaces.
Alors nous, en fait, chez les scouts et guides de France, notamment dans la tranche d'âge 11-14 ans, ils choisissent pour l'année des projets dans à peu près 8 domaines. Et eux, ils ont choisi la rencontre internationale. Et on vient pour un peu rencontrer les associations, voir voilà, les animations qui sont proposées, essayer de les sensibiliser à la solidarité.
Et est-ce que vous pensez que les jeunes manifestent un réel intérêt vis-à-vis de ces questions de solidarité internationale ?
Alors, je pense que ça dépend vraiment des jeunes. D'un point de vue général, je pense que les jeunes sont quand même de plus en plus sensibles à ce type de questions-là en tous les cas, une sensibilité plus grande en général, on va dire.
Alors, quand je vous dis solidarité internationale, à quoi ça vous fait penser ?
Premièrement, c'est positif d'ailleurs. Ça veut dire que, quelque part, on n'est pas dans nos pantoufles et devant notre téloche à attendre que les choses se déroulent. Ça veut dire qu'on conscientise chacun des citoyens de ce qui se passe dans le monde, à savoir qu'il y a des pays riches et des pays beaucoup moins riches, et que les deux peuvent peut-être essayer de coopérer pour que, quelque part, une harmonie se fasse au nom de l'universalité, au nom des droits de l'homme, évidemment, etc.
Je comprends le mot solidarité, je comprends le mot international, donc j'ai une représentation de ce que ça pourrait être. Mais après, concrètement, dans quelle mise en pratique, non, c'était un peu abstrait. J'avais des grandes représentations, mais c'est bien de voir en réalité ce qui existe en ce moment.
C'est quand c'est plusieurs pays, c'est par rapport à tout le monde. C'est, par exemple, on aide des pays étrangers.
C'est théoriquement un événement qui devrait être en première page de tous les journaux du monde. C'est-à-dire que quand des citoyens prennent conscience qu'il faut effectivement lutter, entre guillemets, contre les inégalités, lutter contre des choix économiques qui ne sont pas toujours à l'avantage des plus pauvres, lutter pour que la circulation des matières premières se fasse d'une façon plus juste, plus régulière, etc., c'est bon signe, c'est quelque chose de positif.
Aujourd'hui, c'est peut-être un peu banal ce que je vais dire, mais on arrive à une époque où on se rend compte de l'importance de tous se réunir autour de thématiques en fait communes, et parce qu'on a tous une richesse à apporter. Il faut qu'on teste, qu'on expérimente des manières de travailler ensemble, parce que parfois c'est pas facile, mais c'est seulement comme ça qu'on arrive à trouver des solutions qui arriveront à être pérennes dans l'avenir.
Et une ville comme Lyon, vous trouvez qu'elle occupe une grande place pour des questions de solidarité ? Est-ce qu'elle joue son rôle ?
Je pense qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont faites dans ce sens. Effectivement, comme ce festival là qui a lieu, qui a pris un petit peu le relais de ce qui se passait sur la place Bellecour il y a quelques années. Mais très probablement, on pourrait faire plus et avoir peut-être une opération de ce genre avec peut-être un lieu qui soit peut-être un peu moins fermé, qui permette à un public non averti de venir. Là, je pense qu'on touche plus des personnes qui sont déjà un petit peu convaincues au départ, parce que le lieu étant un petit peu fermé, même s'il y a eu un peu de publicité de fait, peut-être on touche peut-être un public déjà un peu averti.
Alors, je pense que la ville de Lyon joue son rôle. Il y a des gens qui ne jouent pas assez leur rôle, c'est la région Rhône-Alpes-Auvergne. Il y a toute une mobilisation que fait la mairie et la métropole de Lyon. C'est très très bien, mais je dirais qu'il y a encore beaucoup plus à faire.
Un petit mot de fin ?
Bon, alors revenez l'année prochaine, ça sera toujours à la mi-novembre. Et d'ici là, il y a beaucoup à faire, parce que toutes ces associations, il y en a 43 qui sont là, toutes ces associations ont besoin de bénévoles.
Oui, la solidarité, c'est bien aujourd'hui, mais il faut que ça continue demain, parce qu'on en a besoin, et c'est fait du bien aux hommes de faire ça.
Des interviews réalisées par Charlène Ongota, qui n'est pas avec nous parce qu'elle est élève avocat, et donc elle n'a pas pu se joindre à notre animation. Vos réactions Qui veut réagir sur ces témoignages de citoyens rencontrés à la mairie de Lyon, dans le grand hall de la mairie de Lyon?
Moi, il y a deux, trois idées que j'ai retenues. D'abord, que beaucoup de personnes ont exprimé une curiosité par rapport à ce secteur. Parce que, à un moment donné, elles ont sûrement eu un intérêt, mais c'est vrai que on a toujours du mal à mettre du contenu derrière, ne serait-ce que définir le terme de solidarité internationale. On a vu que c'était pas évident pour les uns et pour les autres, mais qu'il y a une envie de savoir, de connaître, une envie d'engagement aussi. Donc ça, c'est plutôt c'est positif, même si on sait, comme l'a très bien dit la dame à la fin, que ce ne sont pas des gens qui n'ont jamais entendu parler de ce secteur-là qui viennent à cette
manifestation. Oui, elle disait un peu, on est entre soi, on est un peu enfermé à la mairie. Oui.
Alors, je ne suis pas sûre que ça soit complètement entre soi, parce que ça l'est sûrement plus que ça l'était il y a 3 ou 4 ans en arrière, quand effectivement l'événement se passait sur la place Bellecour et où là, les gens entraient presque par hasard. Là, on n'est plus tout à fait dans la même configuration, mais en tout cas... Il y a cette envie de s'engager, de faire quelque chose, de mieux connaître, de savoir. Et puis moi, j'ai aussi peut-être sûrement comme mes collègues tilté sur la question autour de l'intérêt des jeunes. C'est vrai que nous, en tant que Resacop, on a vu en fait grandir cet intérêt au fil du temps. Depuis le début des années 2000, où on a commencé à travailler cette question-là et à accompagner des groupes de jeunes, on a vu que c'était un mouvement quand même d'ampleur. Et effectivement, c'est peut-être pas 100% des jeunes, mais on voit bien qu'il y a à la fois l'attrait du voyage, il y a l'attrait de l'ailleurs, mais il y a aussi l'envie d'aider. Alors après, il faut transformer. Qu'est-ce qu'on met derrière aider? Mais il y a cette envie d'agir, de faire quelque chose, de pas être juste les bras ballants, attendre que les choses se passent.
Voilà.
Oui,
Pierre Vial.
Je suis très agréablement surpris de ce que je viens d'entendre, parce que effectivement, cette manifestation qui s'intègre dans un mois de la solidarité nationale. Et c'est un mois des solidarités qui correspond d'ailleurs bien à la vocation de la maison. En tout cas, c'est la maison des solidarités qui porte cette initiative à l'hôtel de ville, à partir de la volonté d'élus d'ailleurs, de faire vivre ce moment important à Lyon de la solidarité, qui effectivement a eu, qui à l'époque se passait place Bellecour avec un grand chapiteau, et qui, à partir de difficultés de financement, a été obligé de réduire, on va dire, sa voilure, et puis de changer aussi probablement de, on va dire, d'organisation et d'intervention. Ce que je constate tout de même d'ailleurs, c'est que nous avons eu à peu près 1000 personnes qui ont transité. Donc ce n'est pas simplement des gens avertis, on a quand même un public curieux qui vient nous visiter. En tout cas, la Maison des Solidarités, qui est donc le maître d'œuvre de cette affaire, et en tant que président, je suis extrêmement surpris, parce que tout a été dit. Cet espace est organisé à partir de différentes places. Il y en a 5. Il y a la place de la santé, cher à Benoît, probablement. La place d'éducation, la place du développement.
Quand vous dites des places, c'est-à-dire qu'on fait comme si on était sur la place Bellecour ou la place de la Concorde, et simplement on donne des noms. Place de la Solidarité, place, et vous en parlez à l'instant.
Alors exactement, c'est-à-dire qu'on voulait reconstituer Lyon, oui. Effectivement, oui. Tout à fait. C'est l'idée, il y a maintenant 3 ans, c'était de reconstituer Lyon dans l'atrium de l'hôtel de ville, pour être complet et plus précis. Et donc, ce sont ces fameuses places que nous avions rebaptisées, avec donc la place de la formation, je ne sais pas si je l'ai dit, mais la place de la consommation responsable, et puis une place un peu spécifique qui est celle pour susciter l'engagement. Et un certain nombre de personnes l'ont indiqué, elles venaient chercher un engagement, elles étaient déjà plus ou moins engagées. Et là, bien ma foi, en faisant le tour de toutes ces places, elles ont pu trouver probablement un engagement dans les associations qui étaient là.
Voilà, alors vous savez pas, comme il est déjà 17 minutes découlées ou 18, on va s'écouter un tout petit peu de musique. Et Pierre Vial nous a proposé Lily de Pierre Perret. Écoutez, vous allez voir, c'est très joli.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily, elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un point rageur, Lily, au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdit aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un type bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
Mais voilà, nous sommes revenus après Pierre Perret, après ce joli Lily. Benoît Miribel, une réaction peut-être à notre micro-trottoir?
Cette réaction, enfin ce qu'on a entendu, confirme l'intérêt de ces événements, de permettre, j'irais, au commun des mortels de s'informer, de venir se confronter s'il a déjà une expérience pour aller plus loin. Okay, donc c'est très important que la région Rhône-Alpes, la mairie, enfin tous les acteurs et les acteurs privés aussi, associatifs, qui sont là ensemble, maintiennent ça. On en est convaincu, cette ouverture. Ça fait plaisir aussi parce que j'ai parfois l'impression que les jeunes sont plus attirés, à juste titre aussi, par l'environnement, par le changement climatique. Et enfin, du moins d'un point de vue médiatique, on entend parfois cette cause qui maintenant domine, alors qu'il y a 20 ans, c'était l'humanitaire. Et ce qui a amené un jour Bernard Lavillardière à dire que l'humanitaire était devenu ringard par rapport à la cause de l'environnement et qu'il fallait, etc. Donc,
est-ce que d'une certaine manière, ces deux pôles environnementaux et humanitaires ne se réunissent pas aujourd'hui, que ce soit sur le plan local ou sur le plan international?
Oui.
Parce que les considérations climatiques ont un effet en retour sur, par exemple, les migrations, pour ne prendre que cet exemple. Et donc, moi, je lis vraiment les deux thèmes de manière assez étroite.
Oui, parce que les nuages, comme le soleil, enfin, le climat ne s'arrête pas aux frontières.
Il s'arrête pas aux frontières.
De la même façon que les maladies infectieuses, puisque
voilà.
On parlait de santé tout à l'heure. Donc, effectivement, il y a plein de causes qui ne s'arrêtent pas aux frontières et qui sont humaines, environnementales et qui méritent d'être prises en compte. Donc, voilà, c'est bien et on a cette responsabilité de continuer à faire en sorte que les gens ne se cloisonnent pas, ne se mettent pas des murs, ne s'intéressent à ces enjeux-là et apportent, je dirais, leur énergie. C'est notre responsabilité à nous qui sommes impliqués dans ces domaines-là depuis longtemps, pour qu'il y ait de plus en plus de monde. J'entendais que, malgré tout, ce sont des personnes qui connaissent déjà un peu, qui viennent. Et donc, notre enjeu, c'est aussi ceux qui n'y connaissent rien. Comment les attirer et qui n'aient pas l'impression que c'est des choses de spécialistes qui leur échappent. Donc, il y a quand même un enjeu. Et peut-être d'ailleurs que cette émission et cette radio, dans sa vocation, peut contribuer à ce que le grand public puisse trouver par un biais un intérêt à ça et qu'il n'ait pas l'impression que c'est qu'une affaire de spécialistes.
Elle est faite pour cela puisque c'est une émission qui devient hebdomadaire, en plus des vidéos que nous faisons deux fois par mois, les Time to Be. Et donc elle est faite précisément pour ouvrir en direction du grand public, à partir certes de la parole de spécialistes comme vous, mais également à partir des retours que nous recevons du public, qu'il s'agisse du public français ou de public venant d'autres pays. Mais alors vous, Benoît Miribel, puisqu'on est avec vous à l'instant, parlez-nous peut-être de certains projets liés à vos activités, par exemple dans le médical ou dans la biologie, je ne sais pas, mais c'est votre choix, et en lien avec des entités régionales ou locales.
En fait, si on parlait à l'instant d'environnement, de solidarité, et l'environnement, c'est des réfugiés climatiques, mais l'environnement, c'est aussi des maladies qui évoluent. On sait, par exemple, que le paludisme, chikungunya, sont des maladies qui remontent vers nos zones plus chaudes. Donc voilà, je rebondis pour faire le lien sur des causes multiples. Hein. Et c'est vrai que dans cette région, à Lyon notamment, on a un terreau d'acteurs dans la santé locale et internationale reconnus, que ce soit des ONG ou des fondations qui agissent ensemble et qui montrent que cette santé, bien sûr, notre santé, elle est sans frontières. Comme l'a dit Pasteur il y a fort longtemps, entre les microbes, mais aussi entre sans frontières géographiques. Et sans frontières entre les acteurs publics et privés, et ça aussi, des structures comme Resacop et puis la Maison des Solidarités locales internationales sont justement des structures qui nous permettent d'avoir une approche d'abord interdisciplinaire, parce que souvent on se rend compte, ben là je parle de maladies infectieuses, mais forcément il faut que je parle aussi du coup d'eau et d'assainissement. Et donc on voit que les choses sont corrélées bien souvent. Pas dans toutes les régions de France, le terreau assez fertile d'acteurs de solidarité locale et internationale que l'on a ici. Donc ça, c'est une chance. Donc effectivement, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails de projets trop détaillés pour l'instant, mais ils sont assez nombreux. Et ils sont aussi...
peut prendre des exemples concrets selon ce qui vous vient à l'esprit pour illustrer les choses.
Il y a une proximité avec quand il y a eu la crise Ebola en 2014, le fait qu'il y ait MSF Suisse, bon, c'est Genève, mais Genève, c'est la grande région.
Oui.
MSF Suisse qui avait l'échantillon, qui a un P4.
Médecins sans frontières.
Médecins sans frontières, qui a un P4 Jean Mérieux exploité par l'INSERM ici à Lyon.
Alors, le P4, il faut le dire à nos auditeurs, c'est un
laboratoire qui est à Lyon.
Laboratoire.
De haut confinement,
voilà.
de sécurité les plus élevées pour travailler sur des pathogènes de classe 4, donc les plus dangereux en fait, virus ou ça peut être aussi des bactéries, est-ce que la tuberculose résistante est une bactérie par exemple, donc de travailler sur les choses les plus dangereuses, parce que si on ne travaille pas dessus, on ne peut pas faire avancer la recherche, on ne peut pas savoir quel vaccin ou comment se battre contre, on ne la connaît pas, et donc c'est elle qui maîtrise le jeu, donc il faut à chaque fois avoir des outils aussi qui permettent de suivre ça. Donc quand on a eu la crise Ebola en 2014, c'est celle qui a fait beaucoup de mal en Afrique de l'Ouest, et notamment, je reviens sur l'environnement, parce que en Guinée forestière, des routes ont été tracées de plus en plus loin, et donc on fait que ces crises Ebola étaient moins confinées qu'auparavant, localisées, et se sont propagées plus rapidement, donc encore aussi l'influence de l'homme et sur l'environnement. Il y a eu donc des séries de réunions de proximité pour pouvoir... Enfin, je prends l'exemple qui n'est pas d'aujourd'hui, de 2019, mais celui-là a été assez fort. Ce qui manque sur un territoire aussi, la proximité des acteurs, leur connaissance, est une aide aussi.
Est-ce que la proximité de Genève est importante pour vous ?
Oui, dans le domaine de la santé, elle est importante. Tout à fait, il y a à Lyon le bureau de l'OMS, le bureau international pour le règlement sanitaire mondial, qui est là depuis 2000 d'ailleurs. C'est un point important. En fait, face à l'ampleur des besoins, qu'il s'agisse des besoins locaux ici ou internationaux, c'est des alliances d'acteurs privés, publics et multisectoriels qu'il faut arriver à créer. Ça, c'est l'enjeu, je pense, du futur.
C'est-à-dire qu'on doit nécessairement travailler en réseau. On doit nécessairement... Et vous, Rosemarie Di Donato, de Resacop, c'est votre métier, précisément. Alors, comment est-ce que ça se passe ? C'est-à-dire, d'abord, dans la région Rhône-Alpes, pour prendre, puisqu'on est sur cette région, il y a combien d'acteurs dont on peut considérer qu'ils font partie de ce que l'on appelle soit la solidarité internationale,
coopération internationale.
La coopération décentralisée, on dit parfois ça aussi.
Alors, plusieurs questions.
Oui.
Je vais essayer de serrer les questions.
Oui.
Peut-être commencer par la dernière, en fait, coopération décentralisée. C'est en fait tout simplement la coopération des collectivités territoriales. C'est un terme un peu barbare, en fait, qui voulait dire que ce n'était pas la coopération des États.
Voilà.
Et dans ce sens-là, on a dit décentralisé. Ça a correspondu aussi en France à la mise en œuvre aussi d'une phase importante de décentralisation, notamment en 82-83. Avec la création des départements et des régions qui ont été des collectivités à part entière alors qu'elles étaient simplement des échelons administratifs. Et donc cette coopération décentralisée, elle est justement née avec cette décentralisation. D'ailleurs, c'est un phénomène assez français. On connaît finalement peu de choses similaires dans d'autres pays, même en Europe.
Ah oui, parce que évidemment vous voyagez beaucoup dans votre activité, donc c'est tout à fait intéressant de comparer avec ce qui se passe en Allemagne, en Italie, ailleurs, en effet.
Tout à fait. Et là, les collectivités se positionnent vraiment en appui, d'abord dans un partenariat avec des collectivités étrangères. Et donc, jusqu'à une époque récente, c'était très normé, donc il fallait qu'il y ait une convention qui existe entre une collectivité française et une collectivité étrangère.
On part nécessairement, vous parlez de l'Allemagne là en particulier par exemple.
L'Allemagne, même l'Italie qui où les collectivités sont assez actives, mais en fait qui sont actives à travers souvent des ONG, pas de l'action directe d'appui à des collectivités étrangères.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on passe plutôt par on va soutenir des actions de développement, mais en passant par des opérateurs et souvent des ONG. Alors qu'en France, la notion de coopération décentralisée, de coopération des collectivités territoriales, c'est vraiment créer une relation directe de collectivité à collectivité, et je dirais dans tous les champs de ce que recouvre en fait la vie d'une collectivité, c'est-à-dire à la fois la vie politique, c'est-à-dire des élus qui vont échanger, des élus français qui vont échanger avec... des élus sénégalais, latinos, etc. La vie administrative, c'est-à-dire comment fonctionne la collectivité. Et c'est vrai que dans un certain nombre de pays, la décentralisation a été aussi récente et que la mise en place de services administratifs, par exemple dans les communes, était aussi assez... il y avait des besoins aussi d'accompagnement. Et puis après, il y a... les services publics, hein, la collectivité, c'est l'échelon de base hein, qui fait la qualité de notre vie, qui fait qu'on se sent bien sur un territoire, qui fait qu'on a du travail, qui fait qu'on a accès à la santé, à l'eau, etc. Et le rôle de la collectivité française dans la coopération, c'est aussi de pouvoir appuyer la mise en œuvre de ces services. Et puis, je dirais, le quatrième pilier, entre guillemets, c'est l'animation aussi de la vie du territoire. C'est comment aussi on fait d'un territoire quelque chose qui se développe, qui a des projets, qui innove, et en mettant aussi autour de la table tous les types d'acteurs. Et donc, la coopération décentralisée idéale, je dirais. Alors, je ne dis pas que ça existe partout, mais en tout cas, c'est vraiment faire émerger, permettre à des collectivités étrangères de faire de jouer leur rôle et finalement de répondre aux besoins de base de leurs citoyens, qui sont des besoins, la santé, l'école, l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, des choses toutes simples, mais qui font notre quotidien.
Comment mettez-vous en parallèle cette coopération décentralisée que vous avez fort bien définie dans ces différents domaines avec la solidarité internationale dont nous parlons plus spécifiquement?
Alors, le terme de solidarité, peut-être que ça vaut le coup de s'arrêter quelques minutes sur le terme de solidarité internationale. C'est un terme avec lequel, personnellement, j'ai eu des soucis pendant quelques années, parce que je trouvais qu'il était souvent utilisé comme des personnes qui savent et qui ont des biens et qui vont aider des personnes qui ne savent pas et qui sont pauvres.
Et, Nord va aider le Sud.
Voilà. Ouais. Et je trouvais que ça trahissait finalement le terme de solidarité. Parce que solidarité, ça veut dire faire partie d'un tout. Et ce n'est pas dans un seul sens. C'est bien dans les deux sens. Alors, les termes de l'échange ne sont pas exactement les mêmes, mais... je crois que les personnes qui sont investies, qui sont impliquées dans des actions de solidarité internationale reconnaissent aussi et réalisent qu'ils n'apportent pas, ils ne donnent pas seulement quelque chose. Ils reçoivent aussi beaucoup. Et que moi, ça m'a réconciliée aussi avec ce terme-là, de pouvoir aussi, y compris dans les ACOP, faire valoir cette signification. Et donc, coopération et solidarité, finalement, la coopération, c'est un outil au service de la solidarité. Coopérer, ça veut dire travailler ensemble. Ça ne veut pas dire l'un qui fait pour l'autre. C'est bien construire quelque chose ensemble. Et je pense que les enjeux tels qu'aujourd'hui ils apparaissent avec les objectifs, la question des objectifs de développement durable, par exemple, le fait que c'est des choses qui sont partagées par tous les pays du monde, montre bien que... le terme aussi bien coopération que solidarité, c'est vraiment là aussi faire ensemble, et on retombe dans faire ensemble, faire réseau. Et que ça soit ici ou là-bas, faire réseau et travailler ensemble.
Et ici aussi, évidemment, le Nord peut apporter au Sud, mais le Sud peut apporter grandement au Nord. J'imagine que vous serez d'accord avec cette affirmation, parce que tout commence par le local, Pierre Vial.
Alors, je sais pas si tout commence par le local, mais en tout cas, ce qui est sûr, d'abord, je souscris complètement ce que vient de dire Rosemary, parce que, effectivement, le terme solidarité était un terme qui, jusqu'à ces dernières années, était plutôt apparenté aux bonnes œuvres qu'à un engagement de coopération. Or, aujourd'hui, c'est clair que l'on soit dans le concept de la coopération décentralisée, qui a un apport tel que vient de l'expliquer Rosemary, que l'on soit dans les interventions des ONG ou qu'on soit dans les interventions des associations, toutes ces interventions se font en coopération avec les populations locales. Il n'y a pratiquement plus personne maintenant qui imaginerait imposer un projet quelque part, tel qu'on l'a vu il y a quelques années, où quelqu'un passait en disant ben « Là, ces pauvres femmes, elles font 2 kilomètres pour aller chercher de l'eau, on va leur faire un puits, et puis tout sera réglé. » Non, aujourd'hui, si on fait un puits, c'est que les populations locales ont été d'accord et ont été engagées dans le fait de faire un puits ici et non pas dans la cour du chef pour que ça soit simplement une famille qui récupère l'affaire. Voilà, donc déjà sur cette notion de co-construction de projet, je pense que de ce côté-là, maintenant, plus personne n'en met en cause cette affaire. Alors, après que tout commence par le local, oui, bien sûr, que ce soit le local ici ou le local là-bas, c'est le propre des interventions des associations. C'est-à-dire, justement, par rapport à la coopération décentralisée qui, en général, aide à faire des projets de développement d'une route, d'une autoroute, ou même simplement d'un jardin, les associations interviennent beaucoup plus localement, avec toujours le souci d'avoir des projets qui soient des projets inclusifs. Alors que ce n'est pas forcément la première idée d'un grand projet. Si on construit une route, ben évidemment qu'au bout d'un moment, peut-être qu'elle sera inclusive. En tout cas, elle servira à un certain nombre d'intérêts.
Être inclusive, c'est-à-dire associer les acteurs locaux à cette activité.
Exactement, exactement. Et que ça soit d'ailleurs ici comme là-bas. Quand aujourd'hui ici, une association crée un restaurant pour accueillir des populations extrêmement défavorisées, eh bien, il y a toujours, avec ce restaurant, l'idée d'avoir une activité qui puisse permettre à ces gens qui viennent de se réinsérer dans la société. Et donc là, on est bien aussi dans l'inclusion, comme ici, comme là-bas.
Voilà, alors je me tourne vers Benoît Miribel parce que c'est un peu le temps d'un autre moment musical. Et Benoît, vous nous avez proposé One. Du groupe U2. Vous allez nous expliquer après pourquoi, mais écoutez d'abord. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. Sisters, Voilà, donc Benoît Méribel, pourquoi YouTube, pourquoi One?
Pourquoi pas?
Et pourquoi pas? Oui, mais certes, mais vous n'avez pas
non, mais parce qu'en fait,
oui.
Il était, Bono était à Lyon.
Hein, Bono.
Le oui. chanteur, le leader de du groupe YouTube, Bono, était à Lyon. Voilà, donc pour le Fonds mondial.
Oui.
Ces 30 réunions qui a réuni 14 milliards, quand même. Profit pour les trois prochaines années. La France est engagée à accueillir cette conférence. Et One, c'est le nom de son ONG. Hein, cette chanson est One. On a une seule vie, on a une seule planète. Et donc, qui une chanson sur l'unité. Donc, je trouvais que par rapport au thème de l'émission, c'était intéressant ce clin d'œil à Bono, au Fonds mondial que Lyon a réussi à accueillir avec succès, 14 milliards d'engagements. Et aussi, c'est cet artiste, U2, qui donne de sa personne, de ses moyens, à juste titre. Donc, voilà.
Voilà, donc on confirme que vous, auditeurs, vous êtes bien dans Human. Nous n'avons qu'un seul monde. Et toi, l'homme, qu'est-ce que tu fais de ta planète? Alors, par rapport à ce qu'on a entendu, par rapport à notre développement, Benoît, donnez-nous quelques exemples de ces rapports sud-sud et de la manière dont on échappe, dont on pourrait échapper à la fois au post-colonialisme et à un certain assistanat.
Ben, c'est effectivement par un travail qui permet aux personnes d'être de plus en plus en charge, en capacité d'agir elles-mêmes, de décider. Donc, la plupart des ONG d'urgence, d'ailleurs, travaillent aussi beaucoup sur des questions de cet ordre-là, parce que les urgences sont pas permanentes. Et puis un pays peut être frappé d'une situation d'urgence localement, mais pas de partout. Donc,
et l'urgence inclut de plus en plus des éléments du développement futur.
Exactement. Donc, en fait, le coût de tout ça est énorme quand on regarde des décennies d'assistance internationale, des gouvernements et des dons qui sont faits par les particuliers. Donc, les acteurs doivent travailler avec les nouvelles générations qui arrivent aussi différemment. Je vais donner un exemple dans l'humanitaire d'urgence parce que dans le développement, il y a le microcrédit qui a commencé il y a une quinzaine d'années et qui porte ses fruits, qui est très important. J'ai vu beaucoup de programmes en Haïti, des femmes par du microcrédit arrivent à se soigner parce que par une formation, elles apprennent un métier.
Le microcrédit, c'est-à-dire mettre à la disposition d'individus ou de toute petite structure associative.
C'est des personnes qui n'ont pas accès à la banque.
Voilà.
Des personnes qui n'ont pas accès à un prêt bancaire, donc qui sont dans la difficulté la plus totale.
Oui.
Plutôt que d'être assistées, elles le sont assistées, mais par des mécanismes des ONG locales. Là, c'est une ONG qui s'appelle ACME, A-C-M-E, par exemple en Haïti.
Oui.
C'est Seigneur Raymond qui est le responsable depuis des années. Il fait un très bon travail. Les femmes qui en ont la volonté, parce qu'on peut rien imposer, hein, mais celles qui en ont la volonté suivent une formation, ensuite savent faire quelque chose, un atelier de couture ou de vendre des choses sur le marché. Enfin, et par ce savoir-faire et un microcrédit qui leur est donné et qui, les statistiques le montrent, est remboursé en moyenne à 85-90%.
Ah oui,
c'est le paradoxe, c'est que les gens les plus pauvres sont ceux qui remboursent le mieux finalement. Et quand on les questionne, c'est parce que c'est tellement important pour eux. Et donc on voit sur des années...
Et parce que c'est beaucoup des femmes.
Oui, c'est beaucoup des femmes, c'est vrai, qui gèrent l'argent. Et c'est vrai que donc du coup, je fais le lien dans l'urgence, c'est les programmes cash du terme anglais, qui ont fait leur apparition il y a à peu près 5 ans. Et bon, à l'époque, j'étais président d'Action contre la faim. On a participé à des programmes au Sahel, en Afghanistan. J'étais assez sceptique parce que je me dis, bon, l'argent...
Sur le fait d'apporter de l'argent frais,
au lieu de la nourriture.
Cash.
Oui, parce que on avait fait une première étape en Haïti où déjà, plutôt que de donner à manger dans les foyers, on donnait des codes et des cartes couleurs pour que les femmes puissent aller sur le marché. On s'était mis d'accord avec des vendeurs pour qu'elles équilibrent aussi leur alimentation.
Donc, ce n'est pas du vrai cash, ce n'est pas des espèces,
c'est
pas du dollar.
Non, ça, c'était intermédiaire. C'était avant d'arriver au cash. C'était il y a 10 ans déjà. Pourquoi? Parce que pour qu'à chaque fois, il y ait l'économie locale qui ne se trouve pas squeezée par de l'aide internationale aussi, qui peut casser la logique, puisqu'on parle de comment remettre les personnes en capacité d'agir le plus vite possible, plutôt que l'assistance. Il faut rappeler que, je reste sur Haïti, mais c'est vrai dans d'autres pays, vous avez à Haïti des pêcheurs qui pêchent plus, des gens qui récoltent plus, tellement le riz a été envoyé à bas prix. Donc, on a vu en 2004 en Côte d'Ivoire.
C'est-à-dire, on détruit une économie locale.
On peut détruire une économie locale, parfois, ou en 2004, en Côte d'Ivoire, le programme alimentaire mondial, on l'avait fortement critiqué à l'époque, se retrouve avec des surplus d'ailleurs agricoles quand les États-Unis en ont justement. Donc c'est déversé après dans des pays. On avait fait valoir qu'en Côte d'Ivoire, dans le Nord, il y avait des disponibilités alimentaires et qu'il fallait travailler sur le marché local. Mais bon, il y avait d'autres enjeux qui fait que ça s'est déversé et ça a cassé. Donc je cite à travers ces exemples-là l'importance du court terme et du moyen terme. Ben, l'impact après est considérable. Et donc les programmes cash qui visent à monétiser l'aide tout de suite, à dire à des gens, ben, comme une assurance chez nous, il y a un problème, on touche de l'argent d'assurance. Et...
Oui, mais alors les réseaux, les malfrats, ben, si vous m'apportez du cash, est-ce que je ne vais pas le mettre dans ma poche?
Voilà, c'est ça. Oui. C'est ça. Et puis où est-ce que, voilà, même si on le donne à la femme au foyer, est-ce que s'il y en a un qui a envie de picoler, il ne va pas se servir dans les caisses, etc. C'est très marginal. Ça marche dans la plupart des cas. En Birmanie aussi, à Myanmar, on le voit. Donc, voilà, c'est intéressant. Alors, c'est accompagné, c'est formé, mais ça aide tout de suite à moins casser les économies et à permettre, après des catastrophes naturelles ou des conflits, à mieux s'en sortir.
Moi, je voulais rebondir sur l'exemple du microcrédit.
Oui.
Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt né là-bas.
Oui.
Que ce soit en Afrique, en Amérique latine, en Asie. D'ailleurs, il y avait des traditions de tontines ou de choses équivalentes. Et depuis, je dirais, 15-20 ans, avec l'apparition en fait, aussi de la pauvreté chez nous, le fait que des gens n'aient plus accès au système bancaire, il y a des structures comme l'ADIE qui sont nées et qui en fait, font ce travail de fournir du microcrédit donc à des personnes, donc c'est des petites sommes.
Ici en France.
Oui, bien sûr.
Non, on n'est pas dans l'international.
Non,
oui.
C'était Madame Novak d'ailleurs, oui, voilà, qui a créé ça. Et ça, c'est quelque chose qui est né ailleurs que chez nous, mais qui trouve maintenant aussi sa place et son utilité ici. Et toujours sur la question du système bancaire, je me souviens en 2007 quand j'étais allée en mission au Burkina Faso. Et je lis dans le journal qu'on vient de sortir une carte qui permet à des gens qui n'ont pas de compte bancaire de payer avec cette carte au Burkina Faso. Et ça n'existait pas du tout en France. Et là, aujourd'hui, on le trouve en France. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a des besoins locaux auxquels des solutions sont trouvées. Et il se trouve que peut-être quelques années plus tard, ces besoins arrivent aussi chez nous et on utilise aussi finalement des produits qui sont nés ailleurs.
Voilà, oui. Pierre Vial.
Au-delà, effectivement, du microcrédit, il y a des actes qui sont posés par des associations locales. Je pense, par exemple, à Arvel Voyage, qui a un partenariat avec une association...
Vous parlez d'Arvel Voyage,
D'Arvel Voyage.
Qui est un voyagiste, oui, voyagiste dont vous occupez.
À Villeurbanne.
Oui, à Villeurbanne.
Oui, tout à fait. Oui. Parce qu'il me vient à l'esprit, c'est un partenariat avec une association à Madagascar. Sa association s'appelle ZOB et ça consiste à financer justement des ébus. Ce qui fait que les touristes, les voyageurs qui passent à Madagascar, sont invités à participer à l'achat d'un zébu qui est mis ensuite à la disposition d'un agriculteur. Si bien que les Arveliens aujourd'hui se retrouvent propriétaires virtuels, bien entendu, d'un zébu, mais qui permet à un certain nombre de familles maintenant à Madagascar de vivre. Et justement, ça se corrobore avec le microcrédit, parce que c'était des gens qui avaient un ou deux ébus, c'est-à-dire qui vivaient extrêmement chichement, avec un troupeau plus important, mais ça permet là de faire du fromage, de vendre le lait, etc., d'avoir véritablement une vraie économie. Donc voilà, on rejoint aussi là la solidarité que l'on peut dire conjuguée par le local à l'international.
Benoît Miribel,
j'essaie de répondre à la question en solidarité locale, est-ce que le côté cash pourrait fonctionner? On peut voir cette question avec Patrice Blanc, qui est aujourd'hui le président des Restos du Cœur, que l'on connaît bien. Il a dirigé Biofort dans le passé, il y a longtemps. Il faut se souvenir que c'est vers 99, je crois, au moment du Kosovo, où on a pu enfin dire arrêtons d'envoyer des couvertures de la farine là-bas, parce que ça coûte de l'argent, il faut le stocker. Enfin, là, pour le coup, on a un plateau logistique humanitaire Bioport aussi qui a aidé pour ça. Donc effectivement, l'argent voyage plus facilement. D'ailleurs, deux tiers de l'aide internationale, ce sont les diasporas, les migrants eux-mêmes qui alimentent, il ne faut pas l'oublier. Et donc, quand même, on a quand même un enjeu de répartition de l'argent, globalement. On a vu des situations de famine, souvent, au Niger, avec malgré tout, donc des gens en situation de famine, et malgré tout, sur les étals, de la nourriture. Mais c'est des gens n'ayant pas accès, n'ayant pas d'argent pour acheter. Donc, on a ces paradoxes. Alors, parfois, il y a des zones où il n'y a plus rien du tout, mais c'est très rare. Donc, le travail qui doit se faire autour de la répartition de l'argent et des moyens est important. Ça, parce que c'est vrai que les Restos du Cœur ont de fortes contributions d'entreprises, des structures supermarchés, alimentaires, etc., ce qui est très bien. Est-ce que ces gens-là transformeraient ce qu'ils donnent comme aliment en argent? Je ne suis pas sûr. En même temps, ces personnes qui vont chercher de la nourriture auprès des Restos du Cœur ou d'autres structures, si elles recevaient de l'argent pour aller faire travailler l'économie locale, elles ont peut-être aussi une dignité qui est différente, vous voyez. Enfin, il y a certainement des choses à travailler globalement, mais qui tournent autour de la répartition de l'argent.
Voilà, écoutez, j'ai bien le sentiment que nous pourrions rester là, autour de cette table, pendant un grand, grand, grand moment, ou y revenir, parce que nous n'avons fait qu'effleurer un grand nombre de sujets possibles. Je crains que ce ne soit le moment de se dire au revoir, mais avant ça, je dois dire que la prise de son de micro-trottoir était assurée par Madeleine Pochon, qui assure également l'écoute aujourd'hui, et animée par Charlène Ongota. Merci à tous, ciao, ciao, écoutez.
Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire.
Radio dédiée à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.